Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mangeon. Et je suis ravi de vous retourner, de vous retrouver. Ça commence bien l'intro, un peu fatigué, hein, donc je suis vraiment ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un épisode du podcast Les coulisses du jeu. Un peu fatigué, un peu complètement exténué parce que là je reviens de quelques jours à la Gamescom à Cologne où ça a été un enchaînement de rendez-vous, de rencontres incroyables. Donc voilà, je remercie encore une fois le podcast Les coulisses. Silence on joue d'Erwan Cario, hein, parce qu'il nous a quand même fait passer, on a eu la chance de le rencontrer pendant le salon et on a pu assister du coup à le rencontrer, puis on a pu avoir le droit à une petite interview de sa part, on a pu parler de notre projet Shipiro et c'était vraiment génial et franchement rien que pour ça le déplacement a valu le coup et on verra bien par la suite pour tout ce qui est un peu en compte pro sur les éditeurs etc. Donc si vous voulez en savoir plus, hein, évidemment, vous pouvez toujours nous suivre notre projet sur le site de la société. Hein, donc peut-être que je n'en ai jamais parlé, hein, la société qu'on est en train de monter avec Robin qui s'appelle Frog Curry. Donc si vous allez sur frogcurry.com, vous pouvez rejoindre aussi le Discord, il y aura pas mal d'infos dessus. Donc je communique moi en ce moment parce qu'on développe pas mal de choses. Mais sinon là, on est sur le podcast Les coulisses du jeu. Donc n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les plateformes de podcast dès que vous nous écoutez, de mettre des 5 étoiles aussi, c'est ça qui est le plus important, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, partout, vous pouvez mettre des étoiles, ça nous aide à augmenter vraiment la visibilité du podcast et que les gens parlent autour de nous. Si vous pourrez parler du jeu, du podcast autour de vous, ça nous donnera un peu plus de visibilité. Je suis complètement à côté de la blague, là je pense que le podcast ne va pas être le plus clair à écouter, donc je vais faire de mon mieux pour aujourd'hui. Donc on va commencer, donc voilà, hop, la news habituelle de licenciement qu'on a l'habitude de voir chaque semaine. Donc cette fois-ci, c'est BioWare qui licencie 50 personnes pour réorganiser un peu la société, le studio et de vraiment refocuser leur production. Et il y a quelque chose, ces licenciements ont lieu sur notamment des studios qui travaillent sur des franchises un peu plus single player. Je crois que, ou multiplayer plutôt, et ils ont envie de se refocus un peu justement tout ce qui est expérience single player, donc comme Dragon Age, Mass Effect, etc. Donc voilà, il y avait besoin de, apparemment, de restructurer et tout. Souvent, ça ne veut pas dire qu'ils ne rembauchent pas derrière, mais c'est sûrement des employés qui n'étaient pas forcément, c'est un peu dur de dire ça, mais utiles ou qui ne correspondaient pas forcément à la décision stratégique à long terme de la société. Donc on verra comment les choses évoluent, mais c'est bien dommage à chaque fois qu'il y a des licenciements, c'est toujours une nouvelle un peu triste pour nos collègues dans l'industrie du jeu. J'espère qu'ils trouveront une place assez rapidement, donc il y a toujours des entreprises qui recrutent, donc on verra un peu ce que prépare BioWare pour la suite. Sinon, on va à première news après ça, c'est les infos autour des jeux à blockchain. Des jeux Web 3 qui utilisent les NFT, tout ce qui est jeux crypto. Donc il y a plusieurs termes, hein, qui décrit ces milieux-là. Donc je pense que pour ceux qui écoutent le podcast ont peut-être suivi que j'étais passé par une société crypto Web 3 il y a quelques temps. Et c'est vrai que maintenant je n'en fais plus partie. Il y a beaucoup de choses en fait qui se sont encore là, hein, qui se passent, mais ça, les choses sont un peu calmées. Donc toute l'industrie du gaming Web 3 s'est beaucoup calmée. Donc notamment milieu de l'année dernière, milieu 2023, fin 2023, il y a beaucoup moins d'investissement. Il y a encore des sociétés, hein, qui tiennent le coup, mais c'est très très dur. Il y a beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins de hype ou de gens, enfin il y a même beaucoup plus de méfiance maintenant de la part de l'audience aussi, des gens qui suivent les projets parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a pas mal d'abus de certains projets qui ont en fait récupéré l'argent des gens qui ont acheté des NFT ou qui ont investi dans le projet et sont partis, hein, les créateurs ont complètement arrêté les projets, sont partis et ont laissé en plan la communauté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus aller sur les jeux Web3. Hein, donc, et puis, la perte de valeur aussi, la crypto dans sa globalité et tous les aspects un peu légalisation, contrôle, régulation du marché a vraiment freiné. Je pense un peu ce marché-là. Donc, mais tous ne baissent pas le bras. Donc, comme Zynga, hein, Zynga qui s'apprête à lancer son titre qui s'appelle Sugar Town, qui est un jeu Web3. Et bon, il y a quand même quelques doutes, hein, concernant le projet parce que il arrive dans un timing assez compliqué. Même s'il y a des autres sociétés à part Zynga comme Ubisoft ou CCP qui continuent d'utiliser un peu, d'explorer les potentiels de la blockchain, même s'il n'y a pas de choses concrètes là qui sont sorties. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Donc Zynga lance son projet Sugar Town à surveiller de près comment ils vont réussir à contourner un peu le bear market, comme on le dit dans le jargon. C'est vraiment un marché très en berne et il n'y a pas. C'est assez dur de sortir la tête de l'eau. Donc on va voir comment Zynga va faire avec son titre Sugar Town, qui est un de leurs premiers projets Web3. Donc peut-être qu'ils ont d'autres choses dans les cartons plus tard, mais ouais. Mais bon, je pense que cette techno elle est hyper intéressante. La blockchain, ça fait des années que j'étudie cette technologie pour savoir un peu les potentiels pour les jeux vidéo. Au début, on a même exploré avec un ancien patron le fait d'utiliser la blockchain pour vérifier des données pour être comme un système d'anti-triche, mais sans vraiment connaître les limitations de la technologie. C'était peut-être un peu un mauvais pari, mais il y a des choses qui ont beaucoup évolué maintenant avec les nouveaux layers de blockchain, layer 2, etc. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Je pense que la technologie est toujours aussi incroyable. C'est l'usage qu'il faut maintenant trouver pour que ça s'adapte sans trop nuire ni aux joueurs, ni à la communauté, ni aux entreprises, pour que ça ne devienne pas un cauchemar non plus et que ça coule pas des sociétés pour du jour au lendemain. Il faut trouver un usage un peu plus stable et durable de cette technologie blockchain. Donc, ça reste quand même quelque chose d'incroyable où une information est vraiment valable de bout en bout et qu'on peut faire confiance, se tiers de confiance et décentraliser, et que ce n'est pas un serveur de chez un développeur qui les tient, mais plusieurs nœuds de serveurs. Et ça, pour l'instant, je ne connais pas d'autres choses qui permettent de le faire. Donc voilà, news un peu sur la partie Web3. Sinon, autre petite news, qu'est-ce qu'on a? C'est une approche un peu intéressante aussi sur la gestion des retours des utilisateurs, des retours des joueurs quand on développe un produit. Donc moi, chaque fois sur mes productions de jeux, c'est toujours délicat, c'est toujours compliqué de jongler entre est-ce qu'on doit suivre purement la direction, la vision créative du studio ou du directeur créatif ou peu importe du PDG, du CEO sur le projet, sur le jeu qu'on développe, ou est-ce qu'il faut suivre plutôt ce que les gens nous disent de faire dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce que si on est au début, surtout au début, quand il y a une toute petite communauté, disons de 50, 60 personnes, il y a 2-3 personnes qui vont dire non, non, mais là le bouton, il faut le passer en rouge. Est-ce qu'on tout de suite on se précipite et on passe le bouton rouge? Ou est-ce qu'il faut se dire bon, on va attendre plus de retour des gens? Ou est-ce que non, c'est la direction artistique, donc on ne touche pas? Donc c'est toujours des questionnements intéressants quand on développe un jeu vidéo, parce que ça reste là, ça reste néanmoins un produit créatif. Hein, donc c'est assujetti à des visions et des perceptions très subjectives sur l'aspect créatif. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est plus une vision des fois qu'il faut apporter. Et donc il y a un article intéressant qui revient de Game Industry qui parle de ça. En fait, c'est un vieux article il y a plus de 10 ans, hein, 2013, a été publié par Jesse Schell, qui est le patron du Schell Games. Il avait écrit déjà un livre, hein, d'ailleurs, sur le game design. Et selon lui, en fait, c'est vraiment une erreur que certains studios ne font que suivre ce que les joueurs disent. Et que selon lui, c'est vraiment c'est vraiment peut-être pas la bonne manière d'aborder la création artistique d'un jeu vidéo, et qu'il faut pouvoir avoir sa vision créative et qu'il est plus Ils pensent que les joueurs ne sont pas prêts, la communauté n'est pas prête à connaître vraiment ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'ont pas essayé. Et des fois, juste de voir des choses ou entendre des choses, ou même des fois essayer des choses à moitié faites, ne sont pas représentatives de ce que faudrait, ce que le titre devrait être, quoi. On se souvient tous, hein, il y a la fameuse citation de Ford à l'époque qui disait qu'à l'époque des voilà des où la voiture n'existait pas, si on demandait aux utilisateurs à l'époque, avant que la voiture existe, ce qu'ils auraient voulu pour se déplacer, ils auraient tous dit plus de chevaux sur la charrette, et voilà, alors que en fait des chevaux plus rapides ou quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer, alors que lui il avait la vision de la voiture et comment la voiture allait arriver sur le marché, et sa vision du produit était bien plus puissante que quelques retours d'utilisateurs, quoi. Et voilà, que ça peut être vraiment néfaste à la créativité et qu'il faut faire attention de pas tout le temps être à prendre en considération les débats entre les joueurs, les écoutes, et d'écouter tout le temps tout ce qui se passe. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est vraiment, voilà, comme je disais, c'est toujours délicat. Pour ma part, je pense qu'il faut avoir un œil et une oreille attentive sur ce que les joueurs disent, hein, sur la communauté, donc sur un Discord, etc., de voir passer les messages. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas forcément contents parce que ça ne leur plaît pas, ils sont déçus du style ou du choix, du design, du game design que vous avez fait. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que l'important ici, c'est de sortir un jeu qui plaît à une grosse partie de votre communauté. Déjà, c'est pas parce qu'une personne va crier tous les jours, toutes les 2 secondes, que non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, que votre jeu n'est pas bien, donc le choix que vous avez fait sur votre jeu n'est pas bien. Donc, il faut vraiment prendre du recul. C'est très dur parce que pour ça, quand on est confronté au quotidien avec ce genre de choses, ça le met en doute et on se dit, bon, bah, est-ce qu'il faudrait pas le changer, quoi? Donc, moi, je sais qu'à des moments, j'ai commencé à noter les retours, à faire des grands tableurs avec des retours détaillés de chaque joueur, à mettre des points d'intérêt sur est-ce que c'est plus puissant, est-ce que c'est moins puissant, combien de joueurs nous ont fait ce retour, donc est-ce qu'il faut le corriger, etc. En fait, maintenant, avec la maturité de développeur, je me dis, non, en fait, je note plus rien. Et l'idéal, c'est vraiment si le problème revient, c'est que c'est important. S'il revient plus, c'est que c'est pas important. Et que c'est pas grave, c'était pas si grave que ça. À un moment donné, il y a quelques personnes qui étaient peut-être mécontentes de ce souci, mais si ça revient pas constamment, c'est qu'il n'a pas lieu d'être traité, quoi. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie, une philosophie que j'ai pris dans mon travail. Ça vient pas de moi, ça vient des gens talentueux de 37 Signals, les créateurs de Ruby on Rails, Basecamp et tout ça, et ils ont cette philosophie-là, et ça marche super bien parce que c'est des petites équipes, donc ils peuvent pas s'amuser à passer en revue toutes les retours et tout, sinon il faudrait recruter encore 10 personnes pour juste gérer les retours des joueurs, les traiter, les ordonner, les prioriser et travailler dessus. Donc c'est juste impensable pour des petites équipes de quelques devs. Donc il faut à un moment donné se dire, ok, ça on le traite pas, c'est pas urgent, c'est pas prioritaire, si ça revient on le fera, si c'est pas prioritaire on le fera pas, et donc point barre. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Donc je vous mettrai, hein, ces articles en note de l'émission qui traitent un peu de tout ça. Sinon, dernière petite news, hein, concernant Epic Games qui lance un tout nouveau programme qui permet d'avoir aux développeurs qui publient d'abord sur l'Epic Games Store 100% des revenus pendant 6 mois. Donc en gros, le deal, c'est il faut avoir une exclusivité sur l'Epic Games Store pendant 6 mois. Donc si pendant 6 premiers mois de la sortie de votre jeu est sorti, donc ça peut aussi inclure Early Access, hein, si vous lancez votre jeu en Early Access, si vous faites d'abord sur Epic Games Store, donc en gros ce qui disparaît entre les lignes, c'est qu'il ne faut pas lancer sur Steam ou sur GOG ou sur d'autres plateformes, et vous pouvez avoir 100% des revenus pendant les 6 premiers mois. Et après après ces 6 mois-là, rien ne vous empêche de sortir sur Steam, sur GOG, sur d'autres plateformes. Ce qui est important aussi, c'est que, oui, évidemment, si une fois les 6 mois passés, vous pouvez garder votre jeu sur l'Epic Game Store, et là vous n'aurez plus les 100% des revenus, mais vous aurez que 88% des revenus. Donc Epic Game prend 12% des revenus générés sur le store. L'autre chose importante, c'est que vous pouvez tout de même distribuer sur d'autres plateformes. Donc c'est pas uniquement dédié sur l'Epic Game Store, c'est là où, par exemple, si vous avez un si vous pouvez le distribuer sur Humble Bundle ou Green Game Gaming ou d'autres plateformes, ou même sur votre site perso, si vous avez un site perso sur lequel vous voulez que les gens achètent, vous pourrez toujours le faire faire, mais par contre, il y a des petites étoiles de conditions. Il faut passer par un outil spécifique de chez Epic pour pouvoir le faire, mais c'est toujours possible. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est une initiative assez intéressante. Après, avec un peu de recul, on se demande est-ce que ils font pas ça pour attirer du monde? Évidemment que si, parce que de toute façon, qui achète des jeux sur l'Epic Game Store? Franchement, personnellement, je ne connais pas beaucoup de monde autour de moi qui est converti, enfin qui est vraiment ouvert son porte-monnaie pour acheter sur le store. À part prendre les jeux gratuits et collectionner son catalogue sur Epic Game Store ou jouer à des jeux free-to-play, notamment Fortnite, l'usage de l'Epic Game Store reste très discret, j'imagine. Donc je connais pas encore la part de marché, il faudrait que j'analyse ça pour voir si j'arrive à trouver des chiffres sur combien de joueurs achètent, combien ils ont de DAU, combien ils ont de taux de conversion, ce serait intéressant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc après, ça peut peut-être encourager, et ça, en plus, ça coûte rien, si vous êtes un petit dev indé et que vous voulez lancer en early access de votre jeu, vu que c'est gratuit, enfin, je crois qu'il faut quand même payer en auto-publishing, il y a peut-être des frais, je sais plus, sur l'Epic Game Store, si c'est comme Steam ou pas. Donc vous pouvez soumettre votre jeu, si ça marche bien, vous avez 100% des revenus, et rien ne nous empêche après les 6 mois d'early access sur Steam, sur l'Epic Game Store, de faire l'early access sur Steam ou lancer le jeu en entier sur Steam. Là, de toute façon, votre communauté va peut-être attendre que le jeu soit sur Steam pour l'acheter, mais ça, vous pouvez déjà tester avec un public un peu moins important, peut-être sur l'Epic Game Store, faire un peu plus de damage control dessus en le sortant. Ce sera un peu discret, c'est pas grave, mais bon, discret. Peut-être pas, parce qu'en fait, je vous dis peut-être une bêtise, j'ai vu dans les news que ils peuvent aussi vous mettre en avant sur les programmes de leur programme qui s'appelle First Run Programme, hein, qui est ce fameux programme d'exclusivité de 6 mois. Donc il y a peut-être des newsletters, etc., qui sont envoyés aux gens qui ont l'Epic Game Store installé. Et donc peut-être que vous aurez un peu de download, un peu de téléchargement, un peu d'achat. Donc il faut tester, le programme arrive en octobre. Vous pouvez déjà vous renseigner sur la page qu'ils ont mis en place. Je mettrai évidemment le lien en haut de l'émission. Et pour continuer sur Epic, ils ont également prévu le fameux Epic Mega Jam qui arrive bientôt. Donc l'Epic Mega Jam 2023 qui arrive là cette année. Voilà, vous aurez plus d'infos à partir de 28 août. Donc normalement, quand vous écoutez ce podcast, très peu de temps après, vous devriez avoir toutes les infos pour participer à la jam. C'est pour bientôt. Et il y a évidemment la possibilité d'utiliser le Unreal Editor Fortnite pour cette édition du Epic Mega Jam. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine, et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur toutes les chaînes de podcast, sur Twitter, surtout aussi à les coulisses du jeu et tout. Voilà, et on se dit à la semaine prochaine. Bye!